L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir l'économiste Gilles Walter. Avec lui, nous allons analyser la crise financière qui vient de se déclencher à nouveau aux États-Unis et la nécessité de la dédollarisation de l'économie mondiale accélérée par le contexte de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. Nous aborderons en particulier les risques de contagion de cette crise bancaire à l'ensemble des pays du monde et la place de l'Afrique dans ce nouvel ordre géoéconomique et géopolitique mondial en formation. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. La faillite de la Silicon Valley Bank aux États-Unis, suivie par celle de Signature Bank et Silvergate Bank, a provoqué une panique bancaire dont l'impact ne cesse de se compliquer pour les banques centrales des deux côtés de l'Atlantique. Le risque, selon une récente étude, tient au fait que pas moins de 200 banques commerciales américaines pourraient avoir le même sort que la SVB. Près de 1 000 milliards de dollars ont été retirés des banques les plus vulnérables au cours des trois dernières semaines du mois de mars, selon la JP Morgan, qui indique que la moitié de cet argent est actuellement investi dans des fonds de placement monétaire du gouvernement. D'après Goldman Sachs, ce montant atteint le record de 7 000 milliards de dollars, soit une hausse de 282 milliards de dollars depuis le début de l'année. En seulement quelques jours, la Banque centrale américaine, la Fed, a déjà injecté près de 300 milliards de dollars dans le système financier américain, soit un montant supérieur à ce qui fut utilisé lors de la crise de 2007-2008. En parallèle, la Fed a instauré un nouveau programme nommé BTLP, dont la capacité totale du fonds serait de 2 000 milliards de dollars selon la JP Morgan, permettant aux banques d'emprunter massivement. À cause du niveau élevé de l'inflation dont les effets ne peuvent être négligés, les banques centrales, malgré l'actuelle panique bancaire, ont annoncé plusieurs relèvements de taux d'intérêt. Or, l'appréciation du dollar, induite par la politique monétaire de la Fed, présente un risque systémique à cause du renchérissement des coûts de financement en dollars, ce qui peut mettre beaucoup de banques internationales, notamment européennes, dont de graves problèmes de solvabilité. Et ce, à cause de l'importante part du dollar dans leurs comptes en obligations d'État et en or bilan. En effet, selon la Banque des règlements internationaux, les banques internationales dont le siège social n'est pas aux États-Unis détenaient fin 2022 près de 39 000 milliards de dollars de dettes cachées sur des produits dérivés non enregistrés dans leur bilan. Face à cette situation d'incertitude, le cours de l'or est en hausse rapide depuis le début du mois de mars et l'a récemment dépassé les 2000 dollars l'once à la Banque de Londres. Ceci rappelle à bien des égards la situation du monde en 1929 suite à la Grande Dépression économique. Ainsi, quelle est la nature de cette nouvelle crise engendrée par la faillite de ces trois banques américaines? Y a-t-il risque de contagion partout en Occident qui pourrait provoquer l'explosion du système financier et monétaire international? Tous les développements sur toutes ces questions fondamentales dans quelques instants avec mon invité, l'économiste Gilles Walter. Gilles Walter, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
Bonjour, merci à vous.
C'est nous qui vous remercions, tout le plaisir est pour nous. Alors la première question, depuis la crise des subprimes en 2008, la Fed et la BCE ont fait tourner à plein régime la planche à billets, fournissant de l'argent à des intérêts faibles, nuls, voire parfois négatifs. Ainsi, les obligations émises par les États pour financer leurs déficits, bien que la rapporte peu, sont très liquides et surtout considérées comme très sûres. Raison pour laquelle la réglementation prudentielle de Bâle 1, 2 et 3 obligent les banques à en posséder pour leur sécurité et celle de leurs déposants. Mais dans le contexte actuel, et suite au retour de l'inflation, la Fed et la BCE ont augmenté leur taux d'intérêt et arrêté d'acheter des obligations, provoquant une hausse brutale des taux d'intérêt. Résultat, les obligations d'État anciennes ont vu leur valeur s'effondrer. Donc, pour ceux, les acteurs financiers qui peuvent attendre à échéance, les banques centrales ont promis de payer la valeur nominale, c'est-à-dire la valeur à laquelle les obligations ont été achetées. Mais les banques, comme la SVB par exemple, ou les autres qui ont fait faillite, qui ont besoin du cash pour donner de l'argent à leurs clients, s'ils sont obligés de vendre, eh ben, ils récupéreront une moins-value. Et si la moins-value dépasse les fonds, je crois que nous serons d'accord, c'est la faillite. Alors, Gilles Walter, la faillite de la Silicon Valley Bank, de Signature Bank et Silvergate Bank sont-elles liées à des questions de mauvaise gestion, d'actifs toxiques ou autres, comme durant la crise des subprimes en 2008-2007, ou s'agit-il d'un crack obligataire qui ne fait que commencer? Et le problème est-il l'énorme paquet d'obligations souveraines qui constitue la base des bilans des institutions financières du monde entier et dont la valeur s'est brutalement rétrécie après le relèvement des taux de la BCE et de la Fed?
Mais écoutez, c'est toujours c'est rarement une explication unique. Donc ici, certainement que les deux éléments ont joué. Comme souvent en cas de faillite bancaire, l'information est difficile à obtenir, donc c'est un petit peu difficile de se faire une idée précise sur la qualité de la gestion de ces banques, notamment de la Silicon Valley. Ce sont des banques qui étaient très très investies sur une niche particulière de l'économie, puisque la Silicon Valley, c'est les nouvelles technologies,
les startups
qui sembleraient est un secteur qui connaît aussi actuellement quelques difficultés. Donc il y a certainement un élément propre à ces banques, mais il est clair que s'il y avait pas eu un contexte, le contexte que vous avez très bien expliqué, depuis 15 ans de traitement de la crise par une émission, par la planche à billets, par une émission monétaire incontrôlée et par surtout des taux d'intérêt faussés, puisque des taux d'intérêt, par définition, ne doivent pas être négatifs dans une économie qui fonctionne normalement. Donc, ça a été l'accélérateur. Est-ce que c'est dans ce cas-là l'élément principal? C'est difficile à dire. Le timing a été un petit peu bizarre, puisque la crise, ce genre de crise se développe, se explose en général le week-end ou à des moments où les banques sont fermées. Là, tout est arrivé un vendredi. Donc, elles ont eu le temps, les déposants ont eu le temps de commencer à retirer leurs fonds. Et disons qu'il y a peut-être aussi certainement un élément de redistribution des cartes. Des banques moyennes comme la Silicon Valley, apparemment, peuvent gêner d'autres acteurs du système. Et c'est peut-être aussi un...
Et d'ailleurs, la plupart de leurs déposants sont en train de migrer vers les grandes banques systémiques comme la JP Morgan, la Goldman Sachs et ainsi de suite.
Voilà, donc le début de ma pensée, il y a une redistribution aussi qui a certainement lieu avec des grands acteurs qui peuvent avoir commencé une bataille pour restructurer le secteur en leur faveur. Ça peut aussi être un élément important dans ce cas précis. Ce qui éterrait le fait qu'on n'est pas encore arrivé au stade d'une crise globale où dans n'importe quelle partie du secteur financier, la moindre étincelle va tout faire exploser. Je pense qu'on n'en est pas là. C'est des crises qui peuvent encore être traitées et qui, dans ce cas-là, pouvaient même peut-être être un petit peu provoquées. Donc, penser que tout est déjà hors de contrôle, c'est un peu prématuré.
Donc, et dans ce cas de figure, Monsieur Walter, le risque de faillite n'est-il pas envisageable pour de nombreux acteurs financiers qui pourraient se retrouver en difficulté dans des deux côtés de l'Atlantique? Et le risque de contagion est-il vraiment faible, comme le martèlent certains dirigeants européens? Ou comme on ne peut pas vraiment situer le curseur, hein?
Oui, non, c'est le risque de faillite, il est de toute façon, vous l'avez très bien expliqué au début, on est entré en 2008, dans une période nouvelle de l'histoire économique qui n'avait pas été connue. Si vous m'aviez dit, et je pense à beaucoup d'économistes en 2008, qu'en 2023, ce système tiendrait toujours grâce à des injections monétaires, grâce à une politique concertée comme elle l'a été, ça aurait été difficile d'y croire. Donc ça fait 15 ans que le système, finalement, a survécu à la crise de 2008 sans grande crise depuis. Le problème est qu'on est entré dans une, comme je l'expliquais, dans une situation qui est inconnue dans l'histoire économique. On fait souvent le parallèle, comme vous l'avez fait, avec la crise de 1929. La situation est quand même très différente. D'abord parce qu'on est ici dans une situation globale.
Absolument.
On est dans une situation où les économies sont beaucoup plus interconnectées et où les méthodes de politique économique utilisées depuis avant, mais surtout depuis 2008, sont hétérodoxes, c'est-à-dire que tous les grands principes qui fondaient les économies libérales anglo-saxonnes européennes ont été battus en brèche pendant longtemps. On nous a expliqué des choses, puis du jour au lendemain, ces choses, finalement, c'était pas le plus important. On a eu d'autres méthodes. C'est pour ça que c'est un petit peu je pense l'inconnu pour tout le monde. Il y a un consensus de plus en plus large pour dire qu'on peut encore continuer à utiliser ces instruments quelque temps, mais que l'échéance se rapproche. Elle se rapproche, on le voit déjà, puisqu'il a bien fallu augmenter les taux. Puisqu'il a fini par y avoir de l'inflation, il y a encore certainement une révélation théorique sur ce qu'est l'inflation, c'est-à-dire que pendant longtemps, on nous a expliqué que finalement, l'émission monétaire n'était pas inflationniste, alors que toute l'inflation est partie dans les actifs, mobilier, immobilier. Donc il y a eu une énorme inflation liée à cette énorme création monétaire qu'on a réussi à cacher, parce que c'est pas l'inflation du quotidien comme on la connaissait avant, mais l'inflation est là. Donc maintenant le problème est là, le problème de l'inflation. L'augmentation des taux, on sait très bien.
Exactement, j'aimerais bien vous rebondir sur ce que vous venez de dire maintenant. Il est évident donc à cause de l'injection monétaire que les principaux responsables de cette crise, ce sont bien les banques centrales.
Oui.
Même sur injonction des gouvernements et des États. Parce que les banques centrales aussi ne peuvent pas... Bon. Alors, et en laissant très longtemps les taux à zéro sans prévoir l'inflation, je ne sais pas comment l'expliquer, parce qu'il y a eu quand même des précédents dans l'histoire et des problèmes qui ont été étudiés et tout. Bon.
Il y a eu, juste sur cet élément, il n'y a jamais eu avant un tel développement des marchés financiers, une telle interconnexion.
Donc, Je suis d'accord avec vous.
Elle a été siphonnée par les secteurs financiers, immobiliers.
D'accord. Donc, et puisqu'elles ont relevé les taux d'intérêt rapidement, prenons le contre-pied de la finance mondiale. Alors, la question, justement, comme vous dites, l'inflation, elle est là, elle va s'accélérer. Que vont-elles faire et qu'elles peuvent-elles faire, vraiment? Est-ce que ce n'est pas un peu le serpent qui se mord la queue? Parce que s'ils augmentent les taux d'intérêt, c'est un problème. Et s'ils ils baissent et ils injectent aussi de la monnaie, c'est un problème. Comment le problème il sera géré?
C'est un problème qui a été détecté depuis un certain moment. Qui est totalement mis sous le manteau, parce qu'il y a au-delà, quand on dit que ce sont les banques centrales les responsables, il y a une responsabilité globale des élites économiques et financières qui sont dans une situation où je ne pense pas que personne ne voit les problèmes. Je pense que tout le monde essaye d'abord de les minimiser et puis de considérer que on arrivera toujours à sortir, à trouver une solution par le haut. La réponse à votre question, je pense que personne l'a. Enfin, il y a la réponse la plus évidente, la seule que je peux vous faire, c'est qu'il n'y a pas, les deux sont un problème. Et maintenant, on est dans une situation où on peut plus compenser, plus ou moins équilibrer les deux problèmes. Maintenant, on ne peut plus jouer sur les taux parce que l'inflation est là. Et elle est là, elle est un petit peu là dans le CPI, dans les prix à la consommation. On le voit déjà, c'est pas encore très manifeste, mais elle est énorme depuis ce que j'expliquais sur les actifs financiers, sur les actifs immobiliers. Donc c'est une bulle qui ne concerne que, on va dire, entre 1 et 5% des agents économiques. Donc la majorité des populations, des sociétés ne le voient pas. On peut le cacher, elle est là. Et le vrai problème maintenant, c'est que sans hausse des taux, ça a commencé, on l'a vu, à partir de de l'automne dernier qu'elle pouvait très rapidement se transférer sur les prix à la consommation et sur les prix à la production qui sont le cœur du fonctionnement du système économique. Si vous avez une inflation des prix industriels et ensuite des prix à la consommation, vous avez forcément une crise globale. Sur les marchés financiers, même sur le marché de l'immobilier, c'est des crises qui peuvent encore être contrôlables parce qu'elles concernent qu'une partie de la population. Sur les prix industriels, les prix à la consommation, ce qui a commencé à se passer à l'automne, ça, l'histoire le montre.
Ce qui est encore le plus frappant dans tout ça, c'est les chiffres de l'inflation sur les produits alimentaires. C'est vraiment... Les Européens, par exemple, n'ont jamais vu ça depuis au moins la fin de la guerre.
Oui, oui, et c'est certainement, malheureusement, que le début, puisque ça s'est parti à l'automne. Maintenant, on arrive au début de la saison des récoltes. On sait qu'il y a beaucoup de matières qui sont sensibles, pas seulement au contexte financier et monétaire, mais aussi simplement à des considérations techniques, si les récoltes sont mauvaises. Ouais. Ça va rajouter un élément qui, là, deviendra vraiment explosif.
Donc, outre la cause donc, des hausses successives des taux directeurs opérées par les banques centrales, notamment la Fed et la BCE, pour lutter contre l'inflation, alors, d'autres experts estiment que les raisons sont beaucoup plus profondes et structurelles. Donc, selon eux, ce sont les mêmes causes qui ont mené à la crise de 2007-2008 et qui est loin d'avoir été réglée. Et, par exemple, si on prend l'exemple de l'endettement global, selon Global Sovereign Advisory, la dette publique et privée globale, elle est actuellement de 300 000 milliards de dollars, ce qui représente 350% du PIB mondial. Alors, qu'en pensez-vous? Et peut-on dire que le système financier monétaire international de l'après-guerre est encore viable? Parce que, normalement, quand on regarde le taux de la production dans ce PIB, qui est dépassé de 350% par la dette, il est très faible. La production industrielle et agricole, et les services ne sont qu'un corollaire de la production. On ne peut pas aller dans un restaurant, par exemple, s'il n'y a pas l'agriculteur qui produit le poulet, la viande et les légumes. Et donc, est-ce qu'il est vraiment encore viable, ce système?
Écoutez, exactement. Hein, c'est déjà, effectivement, ce taux d'endettement par rapport au PIB est énorme. Le PIB est maintenant... En France, par exemple, j'ai pas en tête exactement les derniers chiffres, mais on est à plus de 75% de secteur tertiaire de services qui, d'une part, sont, vous avez raison, forcément liés à la partie industrielle, la partie productive de l'économie pour fonctionner, et deuxièmement, sont extrêmement mal mesurés aussi, parce que la plupart des activités tertiaires, pour mesurer un PIB, c'est des indicateurs qui sont loin d'être solides théoriquement et objectivement. Donc il y a un problème effectivement de pas tellement de définition du PIB. Enfin, d'une partie, il est dans la définition, la deuxième dans son utilisation. Effectivement, il y a cet aspect-là. Sur l'aspect endettement global, on le savait, on l'a pas appris en 2008, ça a explosé en 2008. On sait que depuis 2008, la situation a fait qu'empirer. C'est pour ça que quand je disais qu'il y a quand même 15 ans qui se sont passés où il n'y a pas eu de crise équivalente, mais la situation a fait que s'empirer, la dette a fait que gonfler. Le ratio de dette sur l'économie réelle, on va dire, on utilise le PIB parce que pour le moment il n'y a pas assez de recherche, c'est même pas qu'il n'y a pas de consensus sur d'autres indicateurs, c'est qu'il n'y a pas vraiment de recherche. C'est un des grands problèmes actuels à mon avis aussi, c'est que la théorie économique qui est en vogue surtout depuis l'après-guerre, mais depuis tout le XXe siècle, est complètement dépassée par la réalité actuelle. C'est-à-dire que les économistes n'ont pas les instruments en Occident pour comprendre ce qui se passe actuellement. On le voit très bien avec les banques centrales. C'est une chose de gérer intelligemment une monnaie quand c'est le dollar, comme l'a fait la Fed à certaines époques, moins d'autres. Mais on voit actuellement, par exemple, en Europe actuellement, il y a un vide théorique, intellectuel et stratégique sur à long terme sur la gestion économique qui est évident. Évident, parce que quand on entend...
Non, mais je ne sais pas si est-ce que vous serez d'accord avec moi que même la dette-là qui est annoncée à 300 000 milliards de dollars, si on rajoute tous les engagements dont les produits toxiques et qui sont hors bilan, les engagements des banques à terme sur des produits financiers et ainsi de suite, tout ça aussi, c'est de la dette.
C'est de la dette aussi. Alors, c'est un petit peu complexe au sens où il y a beaucoup de compensation de dette. C'est-à-dire, on dit souvent, par exemple, la BNP, la Deutsche Bank ont une dette hors bilan qui est 25 fois, 200 fois leur bilan, qui est de tant et tant de milliards. Mais souvent, c'est des dettes qui se compensent. C'est-à-dire, il y a un encours global. Mais si vous voulez, si une banque a un problème, enfin ce total de dettes, ces différents instruments qui peuvent s'annuler. Donc c'est pour ça aussi que c'est très compliqué d'avoir un chiffre précis et que en se fiant simplement à ces chiffres, on sait très bien que beaucoup de grandes banques sont théoriquement en faillite techniquement. Parce qu'elles ont trop d'engagement, parce qu'elles sont, ils sont pas couverts, etc. Donc mais le problème c'est que c'est devenu tellement complexe. Que même au sein des banques, souvent même les départements de risque, etc., ont du mal à estimer proprement leurs risques par rapport à d'autres. On a beaucoup parlé au début de l'opération spéciale, quand les banques russes ont été sanctionnées, le système SWIFT, etc. Beaucoup de gens disaient dans les banques occidentales que le problème c'est que si vous bloquez demain, au moment où vous bloquez, comme il y a les parties sont tellement liées. Si vous avez des sociétés russes qui sont liées et qui ne peuvent plus remplir leurs engagements, il peut y avoir des effets en chaîne qui seront immédiats sur les marchés financiers.
Absolument.
Donc, on le voit que les autorités monétaires ne le savaient pas forcément puisque ça a été débattu sérieusement jusqu'à ce que les banquiers viennent leur dire « calmez-vous parce que vos sanctions, ça risque de foutre en l'air en fait notre système à nous ». Donc c'est pour ça qu'on sait que ces dettes sont énormes. On sait que de toute façon, elles ne seront pas remboursées, mais même les dettes des États, c'est plus mal de la question. Pendant longtemps, ça a été, on fait de la dette qu'on payait nos enfants, nos petits-enfants. Maintenant, on a une dette qui n'est pas remboursable, qui est objectivement, la dette des États-Unis n'est pas remboursable. En situation normale, de croissance normale, elle est remboursable uniquement sur des faits exceptionnels comme de l'hyperinflation, une crise profonde, un défaut, des choses qui ne sont normalement pas admises. Donc ça c'est pareil, c'est un petit peu la même question qui se pose maintenant entre est-ce qu'on fait de l'inflation ou est-ce qu'on a des taux élevés. Il y a un moment où on peut plus choisir. Donc il y a un moment cette question va forcément se poser.
D'accord. Et donc avec ce taux d'endettement et l'argent qui ne passe pas justement dans l'économie réelle. Il ne va pas à l'industrie, il ne va pas à la construction de nouvelles infrastructures, il ne va pas à la production. Et c'est le secteur qui est censé rembourser la dette par la suite. Et donc, c'est quoi le scénario à venir ?
Je pense que le scénario, il est d'une part, il est impossible à prévoir, mais il va être très, très... Je pense pas qu'il y ait de scénario global. Il y a des pays qui sont en position de se sortir de cette crise globale parce qu'ils sont moins impliqués, mais qui sont déjà des puissances économiques. Il y a déjà au-delà de ce qui se passe depuis 2008 avec cette dette qui augmente, cette émission monétaire incontrôlée, etc. Il y a des facteurs structurels qui évoluent énormément. On parle beaucoup de la Chine, de l'Inde, des pays émergents, il y a ça. Donc il y a beaucoup de régions qui sont dans une situation où on peut, si vous voulez, on peut voir une stratégie de sortie de crise, de développement qui existe à court, moyen, voire long terme. Sur les économies occidentales, notamment sur les économies européennes, parce que l'économie américaine a quand même des éléments de robustesse, c'est pas uniquement le dollar, il y a quand même
beaucoup d'autres. L'énergie par exemple.
Dans l'économie, ils sont indépendants énergétiquement, ils ont les moyens d'avoir une politique pour réindustrialiser, ils ont les moyens de le faire si vous voulez. L'Europe, c'est la grande question. Moi, personnellement, je ne vois pas de sortie sans choc important en Europe.
C'est-à-dire choc important.
Ça veut dire que la question va rapidement se reposer de la justification théorique de l'euro, parce que là, les tensions sont de plus en plus importantes. Dans tous les pays, les tensions entre les économies du Sud, les économies et les tensions sociales vont augmenter avec l'inflation. On est déjà dans une situation où les populations remettent largement en cause, même l'Europe. Enfin, le vote montre que on l'a vu en Italie, on l'a vu en France, même si c'est pas encore passé, mais on sait très bien que la prochaine fois, si ça s'améliore pas, ça finira par passer et qu'on aura au pouvoir des gouvernements plus nationaux, moins européens, moins inféodés à la finance internationale, etc. Donc, à moins d'une... Il y a un scénario, mais qui à mon avis est très improbable, où effectivement l'Europe développe une vraie politique économique, mais je ne vois pas très bien comment... Surtout que, comme je vous l'expliquais, il y a un vrai vide théorique en Europe. Les économistes en Europe utilisent des instruments qui ont clairement démontré leurs limites.
D'accord.
Donc il y a vraiment, moi en Europe, parce que réindustrialiser, ça ne peut marcher que dans un cadre national. Il peut pas y avoir une politique de réindustrialisation européenne parce que toutes les industries vont aller en Allemagne, par exemple, si les conditions sont les mêmes dans toute l'Europe. Nous, on est dans des pays où les infrastructures sont meilleures, donc c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'en dehors du cadre national, et c'est évident aussi, par exemple, on le voit pour la France, que quand on a atteint 10% de l'économie nationale seulement dans l'industrie, il y a encore une fois pas vraiment de scénario optimiste pour l'avenir. Si on veut réindustrialiser, il faut le faire en changeant la politique, ce qui n'est pas le cas actuel.
Et puis aussi, il faut du temps et de l'énergie.
Exactement.
Alors qu'à côté, malheureusement, les gouvernants ont opté pour la mise en faillite du fleuron de l'énergie nucléaire français qui donnait l'énergie à bas coût.
Excellent exemple, puisque c'est là aussi, on le voit maintenant, qu'ils l'ont enfin compris, qu'on veut le relancer. Et bien maintenant, comme pendant 30 ou 40 ans, la filière a été critiquée de toutes parts et puis démantelée au fur et à mesure. Il n'y a plus les institutions technologiques pour la développer. Il n'y a plus d'ingénieurs nucléaires. C'est une formation qui a été négligée. C'est un domaine qui stratégiquement a été négligé. Donc, c'est pas seulement la volonté politique. Comme vous le disiez, il y a des facteurs structurels derrière qui sont fondamentaux.
Là, on arrive, chers auditeurs, à la fin de la première partie de notre entretien. Je vous retrouve en compagnie de mon invité Gilles Walter pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui l'économiste Gilles Walter. Gilles Walter, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, l'organisation du commerce international centrée sur le dollar, la logistique de production et de transport de biens commerciaux, le réseau bancaire mondial, et de messagers le SWIFT, duquel des pays comme la Russie et l'Iran ont été exclus, se fragmente en plusieurs autres circuits pour la commercialisation des produits énergétiques, comme le pétrole et le gaz, essentiel à l'industrie occidentale, européenne en particulier. Alors, on a les BRICS et d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Algérie, d'autres pays d'Asie, du Sud-Est, semblent opter pour d'autres monnaies de paiement comme le rouble pour les produits énergétiques et autres devises nationales, ainsi que d'autres logistiques d'approvisionnement et de transport, comme les routes de la soie ou les nouvelles routes de la soie chinoises. Alors, il y a ici une question fondamentale qui, à mon avis, j'aimerais bien vous poser. Sachant que le cœur du système financier actuel, c'est la libellisation des hydrocarbures et de leurs dérivés en dollars. Ce système est certainement un système pétrodollar. Alors, si cette dynamique, c'est-à-dire de commercialisation, des produits pétroliers et gaziers ainsi que leurs dérivés se font dans d'autres monnaies, est-ce que cela ne peut pas justement provoquer un effondrement de la pyramide, de toute cette pyramide et bulle de dollars qui s'est constituée dans l'économie mondiale?
Sans doute, même très probablement. Là, les évolutions, elles s'accélèrent depuis l'an dernier, hein, en fait, puisque c'est seulement depuis l'an dernier qu'il y a une partie des échanges qui est d'abord avec la Russie qui a exigé le paiement du gaz. Enfin, disons, partiellement, parce que le mécanisme n'est pas aussi simple, partiellement en rouble. Maintenant, les échanges, là encore, c'est pas encore... Bon, peut-être qu'il y a plus d'informations qui sortent, mais ce n'est pas encore très clair. Mais on sait qu'une partie des achats d'hydrocarbures chinois pour la Russie ne sont pas payés en dollars. On sait que de plus en plus de livraisons de la Russie, dès qu'ils peuvent, essayent d'utiliser des monnaies non dollars. Donc on est vraiment au début d'un mouvement qui risque de s'accélérer rapidement. Là encore, bon alors il faut pas, je pense, condamner trop vite le dollar. Hein. Le dollar va rester dominant, il va rester utilisé de toute façon. Hein. La question, c'est dans quel point cette évolution va se faire sans trop de dégâts. De dégâts, notamment sur ce que vous appelez la pyramide du dollar. Oui, effectivement, puisque bon, on sait que la Chine est la première à engager cette dédollarisation, hein, beaucoup plus encore que la Russie, hein. Mais on sait aussi qu'ils sont totalement dépendants, comme ils ont toutes leurs réserves en bons du trésor.
En dollars, ouais.
Et pour dédollariser leurs avoirs, leur économie, ça prend beaucoup de temps.
C'est non, mais là, on parle surtout de dynamique, d'accélération de dynamique. Je suis totalement d'accord avec vous quand vous dites que c'est encore... Très tôt, c'est même très très tôt de dire que le dollar va disparaître du champ économique international. C'est invraisemblable. Mais cette dynamique s'accélère, notamment à cause donc des actifs qui avant étaient placés pour les achats, à terme en particulier de pétrole, et puis les réserves qui doivent être placées dans les banques ou dans les banques centrales pour couvrir les achats. Donc, c'est-à-dire que c'est le détournement de ça pour faire apparaître des milliers de milliards de dollars dans l'économie américaine et dont personne ne veut. Ce qui, bon, les États-Unis ont certainement des leviers avec lesquels ils pourront toujours s'en sortir, mais la région de l'Europe, comme vous disiez tout à l'heure, elle risque vraiment d'en pâtir. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je suis tout à fait d'accord. J'ai évoqué le destin sombre en termes industriels, monétaires, mais l'Europe, c'est aussi un des gros problèmes, effectivement. C'est que malheureusement, l'Europe, c'est une zone dollar, en fait, l'euro. Si vous voulez, les Américains laissent aux Européens le discours de la monnaie de la monnaie unique, de la politique monétaire, de la banque centrale, etc. Mais en fait, c'est une politique qui est totalement calquée sur les intérêts des États-Unis. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est pour ça qu'il est beaucoup maintenant actuellement au sein des États-Unis, parce que là aussi, on voit quand même que les craquements se sont faits depuis un moment. Hein. L'élection de Trump a été révélatrice. Hein, et je pense que il y a une vraie opposition, je pense, à l'intérieur des États-Unis entre une stratégie qui est la stratégie actuelle, qui est la stratégie depuis les années 90, où en gros on utilise la valeur, le statut international du dollar pour contrôler les échanges, pour répartir les actifs, pour pouvoir émettre au besoin, et pour, si vous voulez, en gros, pour que ce soit le système financier basé sur le dollar qui soit un peu qui dicte un peu le dans toute la politique économique mondiale. Et il y a ce qui a représenté en tout cas par les électeurs de Trump, mais même par lui dans son discours, qui est que ce système ne peut fonctionner qu'un moment. Ce système mène quand même à des guerres incessantes, à des tensions de plus en plus importantes, avec des économies qui se développent en Asie, etc. Et à une désindustrialisation profonde des États-Unis, et donc une stratégie.
Ouais, même les Américains, L'industrie fait juste 12% du PIB.
Oui, oui, et surtout, ils ont...
De l'énorme PIB américain.
Et il y a une perte de compétitivité dans les domaines clés comme l'automobile, l'aéronautique, des industries essentielles. Même, on le voit finalement dans le domaine militaire avec pas mal d'échecs sur le développement de certaines armes, d'avions, etc. Donc, il y a une prise de conscience du déclassement, en fait, de l'économie américaine par rapport aux économies, notamment asiatiques. Et il y a une volonté sachant que derrière ça, le discours, c'est ça nous est arrivé parce que avec le dollar, cette politique internationale, on défend, on va se développer dans d'autres économies, on fait des guerres pour défendre certains intérêts et qu'à l'intérieur du pays, il y a un vrai déclassement. Et ça, c'est le vrai enjeu actuel. Alors, ce sera peut-être Trump, ce sera peut-être pas Trump, ce sera Biden. Je crois aujourd'hui à déclarer sa nouvelle candidature, mais il y a au-delà des personnages, il y a un vrai, c'est évident que si c'est l'option Trump qui est a priori qui a le soutien populaire parce que sa personnalité a fait qu'il a sa personnalité certainement qui a empêché sa réélection, mais il a plus ce soutien là, et il y a une vraie stratégie en cours qui est de réunir, de faire une zone dollar, mais qui sera basée sur l'économie américaine avec les satellites que sont les pays anglo-saxons, mais qui sera beaucoup plus développée sur l'économie réelle et qui fera que les États-Unis ne seront pas obligés d'investir, d'intervenir partout dès qu'il y a un point chaud quelque part pour sauver le dollar et pour sauver ce système de dette. Mais ça passera évidemment d'abord par un changement politique aux États-Unis et par une redéfinition stratégique qui, pareil, sera c'est difficile dont le coût est difficile à estimer.
D'accord. Et par rapport à ce que vous venez de dire maintenant, comment vous analysez le rétablissement des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran sous l'égide de la Chine dans ce contexte global, justement, qu'il soit géopolitique ou géoéconomique?
Comme sans doute l'événement géopolitique majeur de peut-être enfin, je sais pas, il faut chercher, le siècle commence à être avancé, mais en tout cas de ces dernières années, c'est évident. C'est surtout qu'on sait très bien que ça a été très largement soutenu, voire un petit peu conçu par la Russie aussi. Donc là, on a quand même les deux grosses puissances d'hydrocarbures, la Russie, l'Arabie Saoudite. L'Iran ne doit pas être loin derrière, et la grosse puissance industrielle qui clairement ont compris qu'ils avaient des intérêts communs. Ça ne veut pas dire que tout est rose et qu'ils se sont entendus, qu'ils vont se développer.
Absolument.
Mais ils ont compris qu'ils avaient rétablir simplement le dialogue entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est quand même quelque chose qui était complètement inimaginable il y a encore très peu de temps. Et donc là, on a des vraies synergies, comme on dit dans le monde de l'entreprise. Donc même si après il peut y avoir des frictions, si vous voulez, tout s'aligne en fait pour que la Russie et la Chine développent leur coopération, pour que tout ça passe par un développement de la coopération avec l'Iran. L'Iran, qui est une grande économie, qui est pas simplement un pays pétrolier pauvre, l'image qu'on en donne en Occident est totalement fausse. C'est le quatrième pays au monde pour le développement des semi-conducteurs. C'est une industrie très forte. C'est avec l'Arabie Saoudite, qui est une économie très riche. Donc, effectivement, c'est vraiment une évolution majeure. Oui.
Est-ce que, justement, cela ne présage pas, pour ne pas dire un nouveau pôle, mais disons un virage majeur dans la gestion des hydrocarbures dans cette région, les nouvelles alliances? Est-ce que ce n'est pas un peu la fin de Sykes-Picot, où on est à la veille de la naissance d'un nouvel ordre dans cette région-là, qui sera vraiment tourné vers l'Eurasie?
Je pense que si, bon, tout peut arriver, il peut y avoir des cadavres qui ressortent du placard, tout ça peut s'arrêter, mais sinon, l'acte fondateur a eu lieu. a eu lieu. On l'a vu, puisque même la visite de Biden en Arabie Saoudite, ça s'est suivi par exactement l'inverse de, c'est-à-dire qu'en général, déjà, ils n'avaient pas besoin d'y aller. L'Arabie Saoudite faisait ce que les États-Unis leur disaient. Là, non seulement ils y sont allés, mais ils n'ont pas fait ce qu'ils leur disaient. Donc, au contraire, ils ont même fait le contraire. Donc là, effectivement, on est vraiment, et on le voit aussi que finalement, quand ces pays s'entendent, trouvent un intérêt. Et là, je pense que la nouvelle puissance de la Chine, enfin nouvelle au sens de l'histoire longue, hein, c'est pas la nouvelle puissance cette année, c'est de ces dernières années, et la relative nouvelle puissance de la Russie en termes géopolitiques font que maintenant il y a une possibilité d'avoir effectivement des pôles de puissance alternatives. Et si ça continue dans ce sens, c'est clairement l'acte de naissance d'un nouvel ordre des hydrocarbures, c'est évident, mais géopolitique encore plus.
D'accord. Et d'autant plus que après justement cette entente entre ces deux pays, il y a eu une répercussion quasi direct sur le conflit au Yémen où des négociations sont en cours pour mettre un terme à ce conflit. Bien. Alors, maintenant, si vous me permettez de résumer en une phrase ce que vous avez développé depuis tout à l'heure, c'est que la monnaie est un outil géopolitique. C'est pas uniquement l'économie, mais c'est surtout de la politique et de la géopolitique.
C'est même... Enfin, c'est essentiellement un outil
économique
et géopolitique.
Alors,
c'est beaucoup
monsieur,
évidemment.
Monsieur Walter, abandonner le dollar sans prendre les précautions militaires qui s'imposent à coûter suffisamment cher à quelques précurseurs de ce type de décision, comme Saddam Hussein ou Muammar Kadhafi en Libye, pour que la leçon ait été retenue. Alors, va-t-on voir se monter des alliances militaires, en plus de celles énergétiques ou économiques en général, défensives contre l'hégémonie américaine?
C'est déjà en cours, c'est pareil. On voit ce qui se passe avec la Chine, on voit ce qui se passe avec la Russie. Il peut y avoir différentes interprétations, mais bon, le problème aussi, c'est qu'il y a une alliance militaire qui s'appelle l'OTAN qui intervient directement et qui attendait certainement pas que la Russie réagisse aussi violemment, efficacement. On voit que depuis ce rapprochement, enfin ces visites d'État russo-chinoises, l'accord soutenu par la Chine entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, on parle de plus en plus de problèmes à Taïwan de nouveau. Donc le problème, c'est que la Chine ou la Russie, ce n'est pas la Libye ou l'Irak de l'époque de Saddam Hussein et de Kadhafi. Je pense que c'est compliqué de parler d'alliance, même si elle existe. On sait très bien qu'il y a des accords militaires entre la Russie et l'Iran, entre la Russie et la Chine, malgré tout le poids de l'histoire qui fait que tout ça est extrêmement compliqué. Mais la Russie est un grand fournisseur d'armes de la Chine, etc. Donc c'est pas encore au niveau d'une alliance comme l'OTAN, mais c'est de plus en plus évident. Pour le moment, c'est lié à des grands pays. On sait qu'il y a une politique très active encore toujours disons, des anglo-saxons, de l'OTAN en général, dans beaucoup de pays tampons phares, comme en Asie centrale, dans le Caucase. Hein, il se passe beaucoup de choses dans le Caucase aussi. Il se passe beaucoup de choses en Asie centrale qui font que ça déstabilise un petit peu aussi et la région et les grands voisins, et qui sont certainement pas arrivés par le simple cours de l'histoire. Donc il y a un vrai jeu géopolitique en cours, mais ces alliances, oui, elles sont déjà quelque part formées, elles sont pas encore forcément formalisées, mais ce qui se passe là, notamment entre la Russie et la Chine, on le voit, puis ça évolue très rapidement, parce qu'on a toujours, tendance à communiquer l'actualité, à commenter l'actualité, mais c'est l'histoire sur l'histoire longue.
Ouais.
Y a des changements qui sont sans précédent depuis vraiment, on peut dire depuis l'an dernier, en gros, depuis le début de l'année dernière. C'est là où vraiment il y a eu une vraie accélération de tous ces phénomènes.
D'accord. À ce titre, la Chine a pris les devants et elle a formé le groupe de Shanghai, que l'Arabie Saoudite vient de rejoindre en tant que membre observateur, dans le contexte du rétablissement de ses relations avec l'Iran, donc tournant le dos carrément à son allié américain, et une première alliance qui engloberait la Russie, la Turquie, l'Iran et la Syrie est tout à fait envisageable, depuis que la Turquie occupe une position centrale dans l'exportation du gaz russe via le Turkish Stream, et ceci en plus de la communauté des États indépendants qui pourrait être rejointe par la Chine. Alors, étant donné que toutes ces alliances seront formées par des pays qui ont une étendue de l'intérieur, c'est-à-dire c'est des pays qui sont généralement contigus à l'intérieur des continents, peut-on dire que c'est la fin de l'empire maritime anglo-saxon ? Cette vieille rivalité entre la thalassocratie et la théocratie.
Oui, alors bon, là c'est pareil, c'est un petit peu sans doute prématuré, surtout qu'il y a quand même des éléments structurels au-delà de la conjoncture géopolitique actuelle qui fait que les pays se rapprochent, l'Arabie Saoudite, l'Iran, mais rapprocher tous ces, c'est quand même une zone qui depuis des millénaires a des conflits, a des causes, donc c'est un petit peu, vous me direz, c'était pareil avec l'Europe jusqu'au XXe siècle, jusqu'à ce que ces pays essayent de se rapprocher, donc c'est un petit peu tôt. Je pense qu'il y a d'autres éléments qui vont entrer en ligne de compte. C'est les évolutions technologiques, puisqu'on le voit en tout cas dans le domaine militaire avec les armes qu'a développé la Russie, la puissance maritime est beaucoup moins, est moins centrale que ce qu'elle était jusqu'au développement technologique militaire russe notamment. Donc il y a cet aspect-là aussi. Après
on peut rajouter aussi les corridors de développement que la Chine appelle la route de la soie.
Oui, j'allais le dire. Oui. C'est qu'il y a comme l'économie s'est nettement recentrée, rééquilibrée du côté de l'Asie, c'est évident que maintenant des routes de la soie qui seraient terrestres changeraient fondamentalement la donne. Et les Chinois le savent très bien, enfin, tant qu'ils n'ont pas réglé le problème de Taïwan, etc. Ils ne peuvent pas développer une flotte, ça ne se fait pas aussi rapidement. Que même pour la Chine, c'est un petit peu compliqué, plus tous ces intérêts militaires, etc. Donc, c'est des évolutions qui vont être moins rapides, mais qui sont en cours depuis le développement en fait de ces stratégies de route de la Chine. On le voit en Asie centrale, on le voit dans toutes ces régions, l'influence de la Chine. Sans cela, c'est des régions qui seraient très déstabilisées actuellement. Mais là, il y a un élément en plus qui est discutable certainement sur beaucoup de points de vue, mais c'est ni de la colonisation ni de la menace militaire ou de la coopération militaire, c'est vraiment un développement des infrastructures avec un intérêt économique commercial derrière. Donc les pays sont d'autant plus enclins à y adhérer qu'il y a pas cet aspect ni menace ni mise sous tutelle comme le faisaient souvent les pays anglo-saxons ou les pays colonisateurs.
Bien, alors je vous remercie pour cette dernière idée parce que vous me donnez directement la main pour la dernière question de notre entretien et qu'il s'agit de définir ou de voir à peu près dans le cadre de cette géopolitique justement où on voit deux paradigmes. Un qui est beaucoup plus axé sur le commerce et le développement des infrastructures avec la Chine. Comment voyez-vous la place de l'Afrique dans cette nouvel ordre en formation ?
Alors, je connais mal l'Afrique, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais l'évolution, pour moi, l'évolution maintenant à moyen terme va être vers on l'a expliqué, et c'est assez évident, vers une dédollarisation, la fin de l'hégémonie dollar US, etc. Elle est déjà en cours avec l'Asie, mais il est fort probable, la solution pour moi la plus probable, c'est la constitution de zones économiques régionales. Donc, zone monétaire, zone économique, on aura évidemment encore une zone dollar, on aura certainement autour de la Russie une Eurasie avec une zone plus liée au rouble, on aura une zone évidemment liée à la Chine, où il n'y aura pas forcément tous les pays asiatiques, ça c'est des choses qui vont se constituer au fur et à mesure, il y aura certainement une zone autour de l'Inde, parce que c'est une grande économie, donc autour de la roupie. L'Afrique sera une zone. Alors la question, est-ce que l'Afrique peut être une zone monétaire économique à part entière, ou est-ce qu'elle sera plus rattachée à certains autres? Vous savez, pour moi, c'est même pas évident qu'il y aura une zone euro. La situation actuelle fait que il est même très probable que l'Europe va intégrer d'une façon ou d'une autre la zone dollar, mais comme un satellite et comme c'est pas du tout impossible. Donc pour l'Afrique, l'enjeu, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu de ils seront forcément il y a beaucoup d'évolutions positives. On le voit dans les chiffres globaux, mais aussi maintenant avec l'économie numérique, pour l'Afrique, ça offre quand même des perspectives très importantes. Les hydrocarbures sont moins fondamentales peut-être dans le développement. On voit qu'il y a un rééquilibrage avec la présence de plus en plus importante économique de la Chine, maintenant même de la Russie qui est assez active, avec clairement la diminution du rôle de la France, des pays européens. Donc je pense que l'Afrique est en train de devenir active dans ce processus. J'espère surtout qu'elle ne sera pas passive, parce qu'il va y avoir des évolutions et des choses importantes. Hein, bon,
c'est une chance, mais il faut bien qu'il se décide à la saisir.
Voilà, exactement. Et il faut, c'est pour ça aussi qu'il faut...
Il faut des réformes aussi, notamment contre la corruption et ainsi de suite.
Et il faut, vous y participez, il faut aussi que les gens soient bien informés sur ce qui se passe, sur ces évolutions, parce que c'est un gros problème actuellement, c'est qu'on a... On a vraiment un déficit, ce que je disais, de qualité de l'analyse économique. Ça fait 20 ans qu'on entend les mêmes économistes.
Mais là, monsieur Gilles Walter, vous qui connaissez bien l'économie européenne, donc actuellement, la Russie, avec le conseiller de monsieur Poutine, Sergueï Glazyev, et qui travaille justement sur une nouvelle zone monétaire, mais lui, il dit qu'il faut, il faut pas faire, en quelque sorte, même s'il le dit pas de manière directe, peut-être il le dit de manière diplomatique, mais on peut le comprendre. Il faut d'abord commencer par créer de l'économie réelle dans les pays qui pourraient être éventuellement membres d'une zone économique. Créer d'abord les échanges économiques réels, et après la monnaie unique ou la monnaie commune, ou peut-être même une monnaie unique, vient comme un couronnement d'un processus d'intégration des économies de ces pays. Ce n'est pas ce que l'Union européenne a fait. Alors, pour les pays africains, quel est le schéma que vous préconisez, si jamais ils se décident justement à se mettre ensemble?
Je pense qu'il a... Je suis tout à fait d'accord avec lui. Toute la théorie monétaire, enfin historique monétaire, montre qu'une zone monétaire, ça doit être une zone homogène. Le problème de l'Europe, c'est qu'on peut pas faire une zone monétaire. On peut le faire dans un pays. En France, il y a des inégalités de richesse, de développement, mais il faut qu'il y ait une vraie volonté d'être ensemble, qui va au-delà de simplement la monnaie et de l'économie. Donc je pense qu'en Afrique, c'est aussi certainement pas la bonne façon, parce qu'il y a aussi des intérêts différents, des cultures différentes, des éléments historiques, structurels qui font que c'est pas un pays homogène. L'Afrique, c'est un continent avec beaucoup de différences, quoi. Comme l'est ici le qu'on peut appeler l'ex-URSS. C'est vrai que ça a été un pays pendant longtemps, l'URSS. Après, on voit que c'est des cultures, des nations différentes. Donc, je pense que quand on dit une zone monétaire, une zone rouble ou une zone renminbi pour la Chine, c'est pas... Effectivement, ça peut être le but ultime d'avoir une monnaie unique, mais quand on sera déjà à un niveau d'intégration extrême. Le but, c'est pas que de développer le rouble partout, par contre que le rouble soit utilisé, soit le référent et soit le si vous voulez, la base des échanges, ou le renminbi ou la roupie indienne ou le dollar dans la zone dollar.
Mais encore, il faut-il qu'il y ait des produits à échanger.
Exactement.
Et des infrastructures et ainsi de suite.
C'est pour ça que ça passe d'abord par un développement national ou local nationale maintenant plutôt, ce qui est aussi le grand enjeu pour la Russie, je pense, autant que pour les pays africains, c'est qu'il y a effectivement un changement complet du paradigme économique. Encore une fois, je connais pas assez les économies africaines, mais en Russie, c'est une économie qui est totalement sous-monétarisée, qui est totalement gérée selon les principes du XXe siècle, les principes monétaristes, donc qui est plutôt bien gérée. Le problème, c'est qu'il y a des macroéconomiquement, il y a une politique qui empêche le développement. Donc il y a des éléments qui sont objectifs qu'il faut changer. Peut-être qu'en Afrique, c'est aussi, il faut commencer par ça, des éléments structurels qui font que l'économie, pour se développer, doit bénéficier d'autres instruments que ceux dont elle dispose. C'était le système dollar aussi, c'était d'étouffer tous les développements monétaires locaux pour que le dollar soit incontournable. Ça a très bien marché. On l'a beaucoup vu ici dans tous les ex-pays de l'Union soviétique. On l'a vu longtemps dans les pays d'Afrique aussi. Donc il y a un changement et il y a une nécessité de revenir beaucoup plus à une politique industrielle, un petit peu de la théorie industrielle, la théorie des institutions, de la connaissance, comment se développent en fait les entreprises, les relations économiques, au-delà de principes économiques, et certainement aussi une réforme de la finance qui doit être profonde, parce que c'est un des principes, c'est peut-être la cause essentielle de la crise, et c'est une des causes importantes du manque de développement économique, puisque quand tous les actifs financiers sont siphonnés vers l'économie financière, vers la spéculation. Alors c'est pas forcément de la spéculation, mais c'est de l'économie financière en tout cas. Vous avez les banquiers.
La création de l'argent par l'argent, mais voilà, pas par le.
Un banquier au 19e ou au 20e siècle, c'était quelqu'un qui faisait du développement industriel, qui connaissait des clients, qui développait des projets. Maintenant, plus ça intéresse plus aucun banquier de faire du développement industriel, de faire du prêt à long terme sur des projets qui rapportent
et
peu.
C'est de ce point de vue, monsieur Walter, moi, la chose qui m'a surtout frappé après le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, c'est quand la Russie a imposé le paiement de son pétrole et de son gaz, soit par le rouble, ou s'il n'y a pas possibilité du rouble, l'or. Et ça a transformé le rouble en quelques semaines en monnaie extrêmement solide. Là, ce n'était pas la plus solide dans le monde. Est-ce que cela ne pourrait pas justement être un exemple pour les pays africains qui ont des richesses, beaucoup de richesses, que ce soit dans les hydrocarbures, le diamant, l'or, les matières premières stratégiques pour les hautes technologies, justement de créer des systèmes financiers adossés à ces matières premières ou à un panier de matières premières afin d'avoir une monnaie solide et souveraine pour développer leurs économies.
C'est un exemple, malheureusement. Bon, vous avez commencé votre question, votre description, en disant que tout ça, c'est quand même dans le cadre de ce qu'on appelle ici une opération monétaire militaire spéciale. Mais bon, on sait que des pays ont eu des politiques avec moins ambitieuses et ont eu immédiatement les répercussions militaires. Donc ça, c'est pour le moment, en tout cas. Ça a trop de conséquences qui dépassent la sphère économique. C'est-à-dire que les États-Unis, jusqu'à présent, n'auraient jamais laissé faire nulle part. En gros, si vous voulez, les États-Unis, cette espèce de système financier international, on va le dire, parce que on a souvent tendance à concentrer ça sur les États-Unis, c'est la pierre angulaire, mais c'est pas les seuls. Les intérêts financiers qui sont transnationaux, qui sont pas seulement américains. Donc, et c'est évident que en Afrique, ça me semble prématuré parce qu'on l'a vu avec la Libye, on a vu ce qui s'est passé en Irak. Donc, si vous voulez, si demain le Nigeria ou un pays exportateur d'hydrocarbures cherche à avoir une politique indépendante, ça risque de rapidement avoir des conséquences militaires, on va dire. Donc, c'est dans l'absolu, oui, c'est évidemment une stratégie. Ça me paraît compliqué à mettre en place pour le moment.
Chers auditeurs, notre entretien tire à sa fin. Gilles Walter, je vous remercie pour cet entretien passionnant et riche en informations. J'espère que nous avons réussi à éclairer cette question cruciale de la dédollarisation de l'économie mondiale, ses enjeux et ses conséquences, notamment géopolitiques et même sécuritaires. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet, parce que celui d'aujourd'hui, vous l'avez accepté à pied levé, comme on dit. Et merci encore une fois pour votre gentillesse et votre présence. Et à très bientôt.
Merci beaucoup.
C'était l'économiste Gilles Walter. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique, en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.